Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.
Le salon Équipe B Metal Expo, troisième journée 23 septembre, on est toujours en direct à la porte de Versailles à Paris et on est en compagnie du pôle fenêtre UFME, l'Union des fabricants de menuiserie. Je suis ravi d'accueillir Mathilde Crène. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission environnement UFME. À vos côtés, Ludivine Menez, déléguée technique UFME. Bonjour,
bonjour.
Mathilde. Et Ludivine. Et enfin Clémence Hénaud. Bonjour Clémence. Vous êtes animatrice réseau art et fenêtre du groupe FP2E.
Exactement, bonjour.
Voilà, on va parler avec vous, mesdames, mesdemoiselles, de la filière fenêtre qui est engagée pour la valorisation des menuiseries en fin de vie. Alors pourquoi ce sujet, les menuiseries en fin de vie? Eh bien, c'est vrai que c'est un gros sujet, parce que ça consomme énormément, c'est pas une catastrophe écologique, mais il faut s'en emparer.
Il faut s'en emparer et on va devoir de toute façon, puisque comme vous l'avez évoqué précédemment, en 2022, on a une responsabilité élargie producteur dans le cadre de la loi AGEC qui se met en place. Ce sujet n'est pas nouveau à l'UFME. Effectivement, chaque année, sur les 10 millions de fenêtres qui sont mises sur le marché, il y en a à peu près 8,5 millions de fenêtres qui concernent la rénovation. Mmh. Donc ça veut dire 8 millions de fenêtres fin de vie déposées et dont il faut s'occuper, ce sont des déchets.
Déposer, ça veut dire quoi? C'est mis à la benne ou on essaie de les réutiliser aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, elles sont collectées par les installateurs qui viennent installer de nouvelles menuiseries. Mmh. Et tout le sujet, c'est d'organiser justement, d'orienter ce volume de matériaux vers des unités de démantèlement et de valorisation le plus vertueux possible.
D'accord. Est-ce qu'il y a une filière déjà qui est organisée ou pas encore?
Il y a une filière, alors les modes de recyclage sont très bien organisés. Ce qu'il faut structurer, par contre, c'est la collecte, où là, on est au tout début. Effectivement, il faut mettre à disposition des installateurs, soit des points d'abord volontaires, soit des prestataires qui viennent récupérer dans leur cours les fenêtres en fin de vie et qui s'occupent ensuite de leur démantèlement, c'est-à-dire séparer les matériaux et d'orienter vers les filières de recyclage.
Mmh. Clémence Hénaud, vous chez FP2E, est-ce que vous êtes emparée de ce sujet?
Effectivement, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille en collaboration avec l'UFME. Alors on essaye d'avancer humblement, entre guillemets, puisque les filières sont en train de se construire. On essaye aussi de s'approprier ce sujet. Donc voilà, on a travaillé sur la mise en place d'une boucle logistique dans une forme un peu de logistique reverse, en fait, où on s'appuie sur notre flotte de transport pour pouvoir collecter les menuiseries fin de vie et les déposer au plus proche possible sur des points de démantèlement pour que ces matériaux trouvent un exutoire le plus vertueux possible. Mmh.
Je vais poser la question à Mathilde. C'était quoi? C'était l'enfouissement, la solution? On s'en débarrassait? On n'y pensait pas? C'était peut-être
oui,
pas
je pense
moins
que
urgent.
C'était pas un sujet, quoi. On emmenait tout à la déchetterie, puis on se souciait pas plus que ça de ce que ça pouvait devenir par la suite. Ouais, effectivement.
Ouais. Or, on prend conscience que ce sont quand même des ressources, pour la plupart réutilisables. Peut-être. Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Elles sont toutes revalorisables.
Toutes.
La difficulté, c'est de les démanteler correctement pour réussir à bien séparer chaque matière.
Ah oui, ça, c'est pas
c'est
évident.
C'est ça qui est compliqué.
Et d'ailleurs, je crois que maintenant, on commence à y penser, même avant la pause, finalement, de se dire, mais tiens, un jour, il faut pouvoir imaginer une économie un peu circulaire. C'est-à-dire que ça va servir, ça va resservir, ça peut être réutilisé. Est-ce qu'il y a cette démarche chez les fabricants de commencer à penser à ça?
Oui, tout à fait. Ça démarre dès la fabrication maintenant pour la plupart des fabricants.
D'accord. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous vouliez ajouter justement quelque chose par rapport à cette économie circulaire, cette prise de conscience? On a l'impression que ça s'est accéléré ces derniers temps.
Alors, ça s'accélère effectivement. À l'UFME, ça fait des années effectivement qu'on a abordé le sujet. Le premier constat, il y a une petite dizaine d'années, c'est que les menuisiers, comme le dit Mathilde, déposaient à des prestataires de déchets sans se soucier du devenir. Il y a un peu plus de 2 ans, on a mis en place une charte, un engagement volontaire qui est ouvert à tous les acteurs de la filière, donc pas seulement les fabricants, mais également leurs fournisseurs, et puis en aval, les installateurs et les acteurs de la collecte et du démantèlement. Et cette charte engage donc ceux qui la signent, d'une part, à porter les bonnes pratiques pour la collecte. On préconise une collecte intègre parce que le vitrage, qui est le point commun, toutes les fenêtres, peut être valorisé et recyclé en verre plat pour le vitrage, à condition qu'au niveau de la collecte, il ne soit pas cassé et mélangé à d'autres contaminants. Et
d'accord, oui, évidemment. Donc, ça veut dire aussi un certain soin pour les transports, pour l'organisation de la filière, voilà, pour le, finalement la conservation en bon état. Faut pas tout balancer dans la benne, et sinon on pourra rien en faire.
Oui, effectivement, on veille à, au moment du retour de pose, effectivement, nos installateurs veillent à conserver le vitrage intègre. Ça, c'est très important, effectivement, pour que ça puisse avoir une valorisation la plus vertueuse possible et qu'on rentre dans un schéma d'économie circulaire. Donc, il y a des bonnes pratiques, effectivement, à mettre en place. C'est des bonnes pratiques qui peuvent effrayer en première vue. Et pour autant, on se rend compte, quand on le déploie, que ce recyclage et que cette valorisation, elle est vraiment vertueuse en tout point. C'est vertueux d'un point de vue écologique, bien sûr. C'est aussi vertueux d'un point de vue logistique, parce qu'on se rend compte que c'est aussi un gain de temps pour les équipes. Et puis après, c'est aussi vertueux d'un point de vue économique. Et ça, c'est aussi un vecteur qui est important, parce qu'on arrive à ne pas opposer l'économie circulaire à l'aspect économique.
Oui, en tout cas, ça accélère. On voit des initiatives qui sont prises aussi du côté du booster du réemploi. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative, effectivement, où on va stocker comme ça les matériaux qui pourraient être utilisés. On sent que voilà, on est à l'aube d'un mouvement. Quels sont les enjeux justement pour les fabricants, Ludivine, les enjeux, c'est quoi, je veux pas parler de greenwashing parce que ce serait pas gentil. C'est peut-être qu'il y en a qui se disent bon, ok, je vais reverdir mon image de marque, mais ça va bien au-delà.
Alors c'est très quantitatif et plus que qualitatif. Le bilan environnemental d'un produit de construction, il se base sur une analyse de cycle de vie. Donc on prend en compte depuis l'extraction des matières premières à la phase de fabrication, qui en général est la plus impactante, la phase de mise en œuvre, la vie en œuvre du produit dans le bâtiment, qui pour nous va durer quelques dizaines d'années, on dit 30 ans pour une fenêtre. Et évidemment, la fin de vie et ce qu'on va en faire et les impacts évités et puis ce qu'on va réinjecter au début. Et quand on parle d'économie circulaire, vous parliez de réemploi, réutilisation, c'est reprendre le produit et le remettre au même usage. Ça, c'est difficile pour une fenêtre qui est éprouvée. On peut réutiliser à d'autres applications, pourquoi pas. Mais on a la matière qui est extrêmement noble. Et la particularité de la fenêtre, tout ce qui est produit verrier, c'est qu'on ne peut remettre dans un four verrier de verre plat que du verre plat, en termes de matière fin de vie recyclée.
D'accord.
Autant la bouteille, la fibre de verre, d'autres applications verrières peuvent absorber de la matière recyclée issue d'autres filières, comme la nôtre. Et nous, ce n'est pas possible.
Oui.
Parce qu'on demande à un vitrage d'être transparent, d'être étanche. D'être,
on ne peut pas le mélanger avec des bouteilles.
On ne peut absolument pas mettre de verre de bouteille, ni de verre de laine de verre, ni de verre de toute autre application verrière dans un four de verre plat. Pareil pour la matière PVC. Quand vous voyez des fenêtres en PVC, c'est de la matière certifiée, qui est éprouvée, durable, qui garantit à la fenêtre ses performances thermiques, acoustiques, dans le temps, durabilité. Et donc, on ne peut remettre dans une filière de profilé PVC que de la matière PVC recyclée, issue de la même filière.
En revanche, bonne nouvelle, si on arrive à remplir ce challenge, c'est recyclable à quoi, 98%?
Tout à fait.
Si on arrive à avoir son verre...
C'est exactement ça. Le verre, il est recyclable à l'infini. Le PVC, on dit 7 cycles à peu près. Donc, vous faites 7 fois 30 ans, on va quand même assez loin.
C'est pas mal.
On a de quoi voir. Le métal est évidemment recyclable, évidemment. Alors, le métal a une telle valeur que souvent, malheureusement, aujourd'hui, il n'arrive pas jusqu'aux filières de recyclage parce que d'autres le captent avant. C'est un peu pareil que pour le verre.
Oui.
Et c'est à nous de veiller au grain, entre guillemets, et de faire en sorte qu'il y ait une réelle traçabilité des matières collectées.
Par qui il est capté, ça m'intéresse. Qui va...
Par n'importe quelle autre industrie qui peut absorber cette matière noble.
En a besoin, oui. En plus, en ce moment, on parle beaucoup de tensions, effectivement.
Exactement, de pénurie de matières premières. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça s'accélère. Et donc, tout le propos de la charte d'engagement volontaire, qui aujourd'hui est associée à une marque, Fervam.
Alors justement, on va en parler. Les actions mises en place par l'UFME. Ça fait longtemps que vous œuvrez dans ce sens, mais là, vous avez décidé d'accélérer, même de recruter à l'UFME pour vous occuper spécifiquement de ça.
Exactement. Donc Mathilde nous a rejoint il y a un an, ainsi qu'une autre personne, Laurent Suette. Et Mathilde vous a expliqué justement comment tout cela est organisé sur le terrain.
Oui, donc moi quand je suis arrivée, effectivement, cette charte elle était déjà mise en place. Ça doit faire à peu près 2 ans qu'elle y est. Donc moi, ma mission, c'est d'identifier les acteurs sur le territoire en fait, qui participent à cette filière recyclage et puis de leur faire signer cette charte-là pour vraiment créer tout un réseau, tout un maillage du territoire français. En passant du fabricant par l'extrudeur, par le recycleur de matière, le centre de démantèlement, pour effectivement qu'il y ait la valorisation la plus vertueuse possible des fenêtres en fin de vie.
Voilà, donc il y a une charte et une marque associée, hein, c'est bien ça. Fervam, filière engagée pour le recyclage et la valorisation des menuiseries. Comment c'est pris sur le terrain voilà, quand vous venez avec cette nouvelle charte. Je vous dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les labels, les chartes, c'est vrai que des réglementations, on en a plein. Quand on voit arriver de nouveau un label, une charte, on se dit oh, qu'est-ce que c'est encore ça, il va falloir faire peut-être de la paperasse, etc. Comment c'est pris sur le terrain? C'est plutôt accepté, c'est plutôt bien compris par les acteurs de la filière?
Bah nous, ça n'a pas été, c'est pas l'UFME qui a décidé de ça tout seul. Hein. Ça a été fait vraiment en concertation avec tous les signataires de cette charte-là. Le nom a été choisi avec les signataires. Donc c'est une marque qui est très très bien, qui était attendue même je pense, et qui est du coup très bien accueillie, et les signataires sont très contents de relayer cette marque auprès de leurs partenaires.
Combien de signataires et quel volume ça représente environ, professionnel?
On est à 64 signataires.
En termes de volume, on a mis en place depuis le début de l'année des questionnaires de traçabilité,
oui.
Donc différents questionnaires qui... Ça interroge d'une part les installateurs, donc ceux des réseaux par exemple, et les clients de nos adhérents fabricants qui nous font remonter donc les volumes de fenêtres déposées. Donc là, on a des réponses partielles, mais c'est un sondage statistique. On interroge évidemment les partenaires qui collectent et démantèlent. Donc là, on voit ce qui arrive chez eux concrètement. On interroge ensuite la phase d'après, ceux qui préparent la matière recyclée. Et enfin, on interroge ceux qui réintègrent la matière recyclée dans leurs produits. Mmh. Alors, les réponses aujourd'hui, on est au début
d'une
enquête. Voilà, mais on a quand même près de 40% de réponses. Donc c'est déjà un petit taux. Et on a un échantillon donc à peu près stable. Pour vous donner une idée, entre le premier trimestre 2021 où on a mis en place cette démarche et le deuxième, on a doublé les volumes de fenêtres fin de vie collectées.
Eh ben c'est déjà pas mal en tout cas. Voilà. On vous souhaite une aussi bonne traction comme on dit et que ça continue. Alors ce que je voulais dire, c'est les 64 signataires adhérents, c'est combien de personnes sur le terrain, où ça représente le nombre d'entreprises? Je ne sais pas, c'est des grosses entreprises, des petites entreprises ces signataires?
Il y a de tout.
Ouais.
Donc on a des groupes vraiment industriels qui ont plusieurs filiales de fabrication, des réseaux d'installateurs. Il y a des sociétés de démantèlement et de recyclage qui ne recyclent pas que des fenêtres d'ailleurs, qui recyclent tout matériau de construction, donc des PME, PMI de taille raisonnable. Et puis des tout petits de l'économie sociale et solidaire. Mathilde vous parlera mieux que moi.
Oui, des toutes petites structures où ils sont
mais engagés, petits mais engagés,
très très engagés. Ouais.
Bon, justement, on va parler à un des signataires, hein, FP2E. Vous êtes rentré dans cette charte. Clémence, vous pouvez nous en parler. C'était quoi l'enjeu justement pour vous de faire partir de ce mouvement?
Mais il y a déjà eu, sur la base des échanges qu'on a pu avoir avec l'UFME, une prise de conscience qui était un peu hyper importante, c'est-à-dire que la prise de conscience et l'initiative, elle est venue effectivement de l'industriel que je représente, qui est FP2E, c'est-à-dire qu'en lien avec ce que disait tout à l'heure Mathilde, il y avait vraiment une méconnaissance et une mésinformation sur la finalité effectivement des déchets qu'on pouvait générer chaque jour sur nos chantiers. Et une fois effectivement cette information prise, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme telles, et ça nous a paru important effectivement de s'engager. Donc là aujourd'hui, il y a eu un gros travail d'identification et de compréhension des filières en place en lien avec l'UFME une nouvelle fois. Donc ça, c'est un vrai travail et une vraie inertie entre guillemets. Et une fois qu'on a compris et une fois qu'on a appréhendé effectivement les filières qui sont en train de se structurer, on a nous en parallèle interrogé notre réseau de distributeurs, donc le réseau Arrêt Fenêtre, qui est notre premier réseau de distribution aujourd'hui. On a essayé effectivement d'interroger nos clients qui sont installateurs et distributeurs de nos produits pour comprendre et pour appréhender en fait leurs besoins vis-à-vis de la gestion de ces déchets, comprendre aussi les contraintes qu'ils pouvaient rencontrer sur le terrain pour pouvoir leur proposer un schéma logistique le plus adapté possible et le plus efficace possible.
Oui, parce que quand on vient avec cette initiative, bah, on en comprend très intuitivement, très facilement la finalité. pour tous ceux qui ont des enfants, par exemple, on sait qu'ils sont très en pointe sur ces sujets. Pour autant, ça peut être aussi une contrainte pour un groupe qui a l'habitude de faire différemment. On peut se dire, bon, après tout, c'est pas mon sujet. Comment ça a été pris ? Parce que j'imagine que c'est sûrement votre président ou les autres instances de la structure, du groupe, à ce moment-là, qui se décident de faire un pas en avant.
Bien sûr. Alors, ça a pu être perçu, effectivement, au premier regard, par nos clients, notamment par une contrainte, une lourdeur supplémentaire et une gestion supplémentaire dans leur quotidien. Et ce qui est hyper intéressant, justement, c'est de transformer cette contrainte en réelle opportunité. Moi, je suis convaincue du fait que le recyclage et que l'économie circulaire représentent aujourd'hui de réelles opportunités pour nous en tant que metteurs sur le marché et en tant que distributeurs. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a un vrai impact positif. C'est vertueux en tout point, à notre sens. On arrive de plus en plus à avoir du recul sur la base de nos premiers clients qui se sont impliqués sur le sujet. C'est vertueux écologiquement, ça c'est indéniable. On arrive aussi à faire diminuer de fait la facture et les coûts qui sont liés à la gestion de ces déchets. Quand on s'implique dans une filière de recyclage, on se rend compte que ça a aussi un impact réel et positif sur le coût de la facture. C'est à peu près 20% d'économie sur la base de ce qu'on a pu mesurer. Donc voilà, on avance en se disant qu'il ne faut surtout pas opposer écologie et intérêt économique parce que c'est une erreur.
Voilà, parce qu'intuitivement, c'est vrai qu'on se dit, tiens, il y aura peut-être un surcoût sur ces matériaux à récupérer, etc. C'est plus facile. Je vous le dis parce que c'est dans le cas dans d'autres secteurs. On sait très bien, par exemple, sur l'alimentation, il est plus facile, malheureusement, pour les gros distributeurs de jeter plutôt que d'organiser une filiale logistique de recyclage. En plus, c'est des dates courtes. Là, la fenêtre, bon, elle peut rester un mois dehors, c'est pas très grave. Mais au niveau du coût, justement, ça n'occasionne pas de surcoût, ou du moins, c'est rattrapé.
En fait, il y a une valorisation matière qui se fait, en fait, parce qu'on considère les menuiseries qu'on dépose comme des déchets. En réalité, ce sont avant tout des matières qui ont vocation et finalité à devenir des matières premières secondaires, donc sur une seconde vie.
Mais ça veut dire qu'elles sont rachetées ?
Elles peuvent être rachetées selon la typologie du matériau, effectivement. Typiquement, le PVC a une valeur sur le marché, l'aluminium a une valeur qui est d'autant plus importante, effectivement, et cette matière, elle est rachetée.
Ouais, et comme vous le disiez, effectivement, comme il y a des tensions en ce moment sur certaines matières, eh ben, elles ont tendance à se valoriser en plus.
Balbutiement, et on n'a pas aujourd'hui assez de matières recyclées pour alimenter en continu la fabrication de menuiseries, mais on voit des taux de matières recyclées dans les menuiseries croître, et c'est évidemment la tendance. Le résultat aussi, c'est qu'on a un bilan environnemental beaucoup plus faible, parce que fondre de la matière qui a déjà été transformée, quand vous refondez du verre, vous consommez infiniment moins d'énergie, donc de carbone. Réextruder du PVC issu de PVC broyé, rebroyé, reformulé, recertifié, ça consomme aussi beaucoup moins d'énergie, donc beaucoup moins de carbone, et c'est vrai pour tous les matériaux.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres des freins qu'est-ce qu'on vous dit, voilà, sur ceux qui sont un peu réticents?
Alors, il y a des peurs, je pense, et des croyances. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que, comme je vous le disais, il y a une vraie inertie au déploiement, et on avance vraiment pas à pas et assez humblement, parce qu'on a conscience, effectivement, du chemin qui nous reste encore à parcourir. Mais pour autant, on le voit et on le perçoit. Nos clients sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient encore il y a un an, parce qu'une nouvelle fois, il y avait une méconnaissance du sujet il y a un an. Donc aujourd'hui, voilà, on avance et on est relativement positif sur l'engagement des distributeurs et de nos clients.
Oui. Ludivine, justement, est-ce qu'il y a eu une accélération avec cette crise sanitaire, une prise de conscience qui a été faite par les acteurs ?
Alors peut-être qu'effectivement, ils ont pris du recul et aujourd'hui, ils se sentent tous concernés. Et puis, je ne sais pas si c'est la crise sanitaire ou tout simplement les premiers résultats qu'on met en avant. Et même si le réseau RFNetre est très humble, c'est l'exemple qu'ils donnent aux autres réseaux et aux installateurs et fait envie. Donc aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui se sont engagés dans la charte et qui font le job. Et nos partenaires, les premiers signataires, les partenaires de collecte et démantèlement, entendent augmenter leur capacité et investissent aujourd'hui massivement pour répondre aux attentes et aux besoins du marché.
Mathilde, est-ce que c'est une initiative qui est isolée, voilà, avec vos petits bras, vous avez fait ça, et bien sûr avec les adhérents qui le veulent, ou est-ce que ce sont des choses qui existent peut-être chez nos voisins européens, à l'étranger? Est-ce qu'on s'est calqué sur une méthode?
Je crois pas.
Non, il y a d'autres initiatives à l'étranger. Nous, on est inscrit dans une démarche européenne pour le PVC. On est partenaire de EPA et Vinyl Plus, où de toute façon, les acteurs du PVC sont des acteurs européens. Et il y a une réelle volonté déjà de rétablir les lettres de noblesse de ce matériau et prouver à tout le monde qu'il est parfaitement recyclable et écologique et qu'on se donne les moyens de réincorporer de la matière recyclée. Il faut savoir que les premières fenêtres PVC, elles datent des années fin 70-80, donc on commence à peine à avoir des fenêtres en fin de vie, mais dans les 10 années à venir, ça va s'accélérer, bien sûr. Après, pour les autres composants, et notamment le vitrage, je pense que la France est précurseur, parce que remettre du verre plat fin de vie dans du float comme ça paraît simple. Oui. Mais si on ne se donne pas les moyens de prendre quelques précautions à la base, c'est des bonnes pratiques qui tombent sous le sens. Et quand vous en avez conscience, après, ça s'intègre vite. Mais si dès le départ, on se dit, effectivement, on jette dans la benne et puis on verra après... C'est pas comme ça que ça marche.
Mais c'est intéressant ce que disait Clément, c'est-à-dire qu'il y a une accélération aussi de la prise de conscience. Aujourd'hui, on se dit, tiens, on le voit d'une année à l'autre, même d'un trimestre à l'autre, dès qu'on se met dans cette idée, je pense qu'on peut plus faire machine arrière et qu'aujourd'hui, peut-être celui qui a pris l'habitude d'utiliser la filière, on se dit qu'il mettra peut-être plus rien à la benne et qu'il va se dire, mais en fait, je suis en train de jeter de la matière, je suis en train de jeter de l'argent même.
C'est ça. En fait, je pense que c'est une méconnaissance globale et collective, en fait. Tant qu'on ne s'est pas posé la question de la finalité, effectivement, des déchets qu'on peut générer chaque jour sur nos chantiers, et on continue d'avancer dans ce sens. Et nous, comme je vous le disais, il y a eu un vrai travail d'information, de sensibilisation. Ça fait un an maintenant qu'on sensibilise et qu'on informe nos clients sur le sujet. Et effectivement, on sent qu'il nous est... Une fois avoir pris le point, ils nous écoutent avec une oreille beaucoup plus avertie qu'ils ne le faisaient il y a encore un an et demi de cela.
Voilà, et c'est que le début, évidemment, hein, 64 aujourd'hui.
64, oui.
Quels sont les objectifs? Il y en a un maximum?
Non, on n'en a pas.
C'est quoi le mode de... Comme quand vous allez sur le terrain, là, il faut organiser quoi, des séminaires, des webinaires, prendre son bâton de pèlerin, leur en parler?
C'est de la pédagogie. Prendre son bâton de pèlerin, et puis il y a aussi nos signataires qui font aussi le travail de leur côté, qui sensibilisent aussi également de leur côté. Donc c'est un travail d'équipe, tout le monde, on sent que tout le monde embarque et donc du coup on avance bien.
Ludivine, pour conclure, on a pu lire dernièrement des informations concernant un récent partenariat UFME. De quoi s'agit-il?
Si vous parlez de Valobat?
Oui, tout à fait.
Alors, effectivement, en 2022.
Membre fondateur du futur éco-organisme.
Alors, Valobat est un projet d'éco-organisme. La loi AGEC, qui entre en vigueur en 2022, impose aux fabricants d'adhérer à un éco-organisme pour s'acquitter de leurs obligations réglementaires, donc qui consiste notamment à résorber les décharges sauvages, à participer justement à ce maillage territorial de collecte et à entrer dans une démarche d'économie circulaire. Donc pour cela, il y a des candidats éco-organismes. Valobat en est un. Et Valobat rassemble donc tous les produits de construction, du matériau et construction du bâtiment. C'est à ce titre que l'UFME a trouvé cette démarche particulièrement intéressante, puisque ça permet de mutualiser les moyens de collecte et de transport. Et vous avez donc parmi les membres fondateurs trois organisations professionnelles, dont la nôtre. La raison pour laquelle on y est, nous, en tant que collectif et non pas en tant qu'entreprise individuelle, c'est que le monde de la menuiserie est très divers. On a chez nous des fabricants de toute taille. Et les tout petits ne pouvaient pas se permettre de s'impliquer et financièrement et en temps dans cette démarche. Ça nous semblait naturel, effectivement, d'embarquer tous nos adhérents et ne pas laisser juste un ou deux y aller isolément.
C'est bien, c'est une belle initiative là aussi. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce grand défi des menuiseries. En fin de vie, on voit que la filière s'organise. Vous êtes précurseurs, bravo, un grand merci à vous trois. Merci Clément, Stéphane Sénaud. Je rappelle que vous êtes animatrice du réseau Arrêt Fenêtre du groupe FP2E. Mathilde Crène, chargée de mission environnement UFME. Et Ludivine Menez, merci beaucoup. Déléguée technique UFME, on arrive au terme de cette émission. Mais en tout cas, on vous dit à vous toutes, on prendra des nouvelles de cette initiative et on en reparlera très prochainement sur Bâtir Radio.
Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.